Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel enregistrement du cours M4MA001 Histoire culturelle de l'Occident contemporain par Laurent Martin. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup, que le moral est bon, que vous continuez à travailler, même si nous arrivons en période de vacances. Mais enfin, c'est vrai que cette période de vacances ne va guère différer des 2 semaines que nous venons de vivre. Donc j'espère que vous continuez à lire, à écouter cet enregistrement, à réfléchir, à vous informer aussi, et les sources ne manquent pas sur Internet. Alors cette séance que j'enregistre est la 10e séance, la dernière séance que je vais mettre en ligne. Elle porte sur, de nouveau, les années 70 et 80, je vais délaisser les questions qui portaient sur la crise de civilisation diagnostiquée par un certain nombre d'intellectuels et d'experts au cours de cette période. Et je vais plutôt m'intéresser à des changements de paradigme intellectuel et artistique dans ces années 70-80, dont on a pu dire qu'elle correspondait à des années de basculement idéologique. Et c'est ça que je voudrais essayer d'analyser à travers plusieurs ouvrages, en particulier donc le manuel Atland sur culture, média, pouvoir, que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. J'utiliserai également l'ouvrage dirigé par Christophe Charles et Laurent Jean-Pierre sur la vie intellectuelle en France, qui est paru en 2 volumes aux éditions du Seuil, puis en réédité en semi-poche en 3 volumes. Et puis divers ouvrages que je citerai au fil de mon exposé. Alors cet exposé sera divisé en 2 parties et a priori 3 enregistrements. Les 2 parties, donc en termes de contenu intellectuel, c'est d'une part, première partie, les changements intervenus dans la sphère intellectuelle, donc le monde intellectuel, d'abord à l'étranger, dans une première sous-partie, et puis je zoomerai sur la France dans une deuxième sous-partie. Et puis, deuxième partie, la sphère artistique, et là encore, avec une première sous-partie consacrée à divers cas étrangers, en Europe et aux États-Unis, et puis une deuxième sous-partie consacrée aux cas français. Donc je pense que je vais consacrer un premier enregistrement qui va correspondre à la première partie, à une partie de la première partie en réalité, sur la sphère intellectuelle. Un deuxième enregistrement qui portera sur une deuxième partie de cette première partie, je ne sais pas vous suivez, et un troisième enregistrement qui portera intégralement sur la deuxième partie, donc sur la sphère artistique. Bon, je repréciserai au début de chaque enregistrement à quoi celui-ci correspond. Donc, première partie, les changements de paradigme idéologique dans la sphère intellectuelle, et pour commencer, donc, dans divers pays étrangers, première sous-partie. Ce qui me semble intéressant et ce qui me semble caractéristique de cette période des années 70-80, donc deuxième moitié des années 70, début des années 80, c'est la montée de ce qu'on pourrait appeler le paradigme antitotalitaire, la critique du totalitarisme, le souci des droits de l'homme, une approche plus morale que politique, je dirais, des grands enjeux contemporains. Cette critique du totalitarisme, elle a été menée précocement aux États-Unis à partir de la fin des années 40, début des années 50. Je pense notamment au grand texte de Hannah Arendt, la philosophe germano-américaine, Les origines du totalitarisme, qui date de 1951. Arendt, ça s'écrit A-R-E-N-D-T. Consécutive et probablement corrélative à cette critique du totalitarisme, notamment dans sa version marxiste ou communiste, un retour en grâce des idées libérales, à la fois dans le champ politique, mais aussi dans le champ économique. Alors, si je prends le cas des États-Unis, ce qui est caractéristique, me semble-t-il, des années fin des années 70, début des années 80, c'est que beaucoup d'intellectuels, notamment ce qu'on appelle les intellectuels académiques ou universitaires, font l'objet d'attaques de la part d'autres intellectuels, mais qui se rangent plutôt dans le camp des conservateurs. Je pense notamment aux ouvrages d'Alan Bloom, notamment celui de 1987, hein, The Closing of the American Mind. Et je continue le sous-titre en le traduisant, Comment l'enseignement supérieur a abîmé la démocratie et appauvri les âmes, les esprits, mais ici il parle de souls, donc les âmes des étudiants d'aujourd'hui. C'est un texte de 1987. Alan Bloom, c'est BL2OM. On peut également citer les ouvrages de Roger Kimball, KIMBA2L, Tenured Radical, qui est là aussi une critique, qui date de 1990, lui, qui est une critique assez féroce des, justement des intellectuels universitaires. Et on peut également ajouter le pamphlet de Dinesh D'Souza, Illiberal Education, The Politics of Race and Sex on Campus, 1991. Les attaques contre ces intellectuels universitaires sont pour les conservateurs un moyen de cibler tout ce qui s'est mis en place dans ces années 70, la discrimination positive, le multiculturalisme, le féminisme, dans un contexte de crise du système éducatif américain. Pour d'autres intellectuels plus libéraux, je pense notamment à Russell Jacoby, Jacoby, dans son livre The Last Intellectuals, American Culture in the Age of Academia, 1987, il s'agit plutôt de regretter la fin des intellectuels publics qui s'adressaient au grand public, qui n'avaient pas peur d'utiliser les médias notamment, et il regrette en fait la montée en puissance des universitaires enfermés dans leur spécialisation et dans leur campus, qui se spécialisent à outrance et qui donc ne participent plus véritablement au débat public. Au Royaume-Uni, il me semble que comment dirais-je, la critique, enfin la pensée radicale de gauche va continuer peut-être plus qu'aux États-Unis à se déployer dans ces années 70-80, même si les années 70 et 80 constituent une période sombre pour les intellectuels, notamment de la gauche radicale. L'heure, en effet, est au pessimisme, à la désillusion face à l'échec des gouvernements travaillistes qui sont au pouvoir de 74 à 79, face à l'incapacité du projet socialiste à dépasser les frontières du monde universitaire. Le parti travailliste semble incapable de mettre un terme aux crises économiques et sociales d'une décennie marquée par l'inflation, le chômage, la récession. Le parti travailliste traverse une forme de crise existentielle, tiraillée par des luttes intestines et une séparation, une fracture croissante entre militants et dirigeants. Cette désillusion, on la retrouve parmi les penseurs marxistes de la nouvelle gauche. Je pense notamment à Miliband qui publie deux essais où il exprime sa frustration devant ce qu'il appelle la défaite du mouvement radical devant le capitalisme. Donc deux essais dont les titres sont Moving On 1976 et Marxism and Politics 1977. Dans la même veine, l'historien marxiste E.P. Thompson, Thompson, publie The Poverty of Theory, la pauvreté de la théorie. Évidemment, c'est une inversion du titre célèbre, La théorie de la pauvreté. Poverty of Theory, qui est de 1977. Et où finalement il dénonce une forme d'appauvrissement de la pensée. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il va se détourner de l'engagement directement marxiste et politique pour s'investir dans la cause pacifiste. À partir de 1980, il participe au mouvement européen pour le désarmement nucléaire, European Nuclear Disarmament, et il est rejoint sur cette cause pacifiste à un moment où il y a un regain de tension entre les deux grands, notamment après l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, puis le déploiement des missiles américains sur le sol européen en réponse au déploiement des missiles soviétiques. Donc il y a un regain de tension et une résurgence, enfin un regain aussi du mouvement pacifiste. Et donc plusieurs intellectuels britanniques, Thomson, mais aussi Priestley ou encore le philosophe Bertrand Russell, rejoignent ce mouvement pacifiste et anti-nucléaire. Les années 1980 donnent une plus grande visibilité aux minorités à travers plusieurs figures intellectuelles majeures d'obédience marxiste qui dénoncent les cadres culturels et politiques de discrimination et qui explorent les cultures et les identités raciales et de genre. On peut citer Hazel Carby, Carby, notamment dans son livre Reconstructing Womanhood, Emergence of the Afro-American Woman Novelist, donc la reconstruction de la féminité, l'émergence de la romancière afro-américaine. Stuart Hall, H-A-2-L, qui est originaire de Jamaïque et qui est. On peut le dire, le chef de file de la deuxième génération des Cultural Studies du centre de Birmingham, Paul Gilroy, Gilroy, qui est par ailleurs l'auteur de deux grands classiques hein, des sciences sociales, qui s'intéressent aux questions d'identité ethnique et raciale. The Empire Strikes Back, évidemment, il y a une référence malicieuse au film de George Lucas dans La Guerre des Étoiles. Donc, The Empire Strikes Back, Race and Racism in 1970s Britain, donc l'Empire contre-attaque, race et racisme dans la Grande-Bretagne des années 70, qui date de 1982. Et cet autre titre qui claque, There Ain't No Black in the Union Jack. Il n'y a pas de noir dans le drapeau britannique qui date de 1987. L'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir à partir de 1979 va polariser le monde des intellectuels. Le thatchérisme, fondé sur l'économie de marché et la moralité victorienne, est contesté par des intellectuels de gauche, mais également à droite, à travers la création notamment de la Salisbury Review par les historiens de l'école de Peterloo. Qui défendent un conservatisme plus traditionnel. Du côté de la nouvelle droite, on peut citer comment dirais-je, un groupe, un collectif qui s'appelle The Monday Club, qui est particulièrement actif au cours des années 80. Les batailles des idées se mènent moins dans les couloirs universitaires que dans le monde de la culture, parmi les écrivains, les auteurs, les scénaristes. Tandis que Thatcher et ses médias partisans attaquent régulièrement le libéralisme de la BBC et alimentent un anti-intellectualisme manifeste, de nombreuses productions culturelles critiquent le thatchérisme, son individualisme décomplexé et les attaques contre les syndicats, le délitement du tissu social qui est la conséquence finalement de l'ultralibéralisme pratiqué par Thatcher. La BBC devient une arène de confrontation entre intellectuels pro-thatchériens et intellectuels libéraux ou de gauche, et ce pendant toutes les années 80. Troisième pays que je voudrais examiner rapidement, toujours à travers ces pages extraites donc du livre Culture, Médias, Pouvoir. Aux États-Unis, Europe occidentale, 1945-1991. Troisième pays, c'est l'Allemagne fédérale. Les années 60-70 avaient vu l'engagement politique d'une nouvelle génération d'écrivains. Les grandes figures de la littérature ouest-allemande dénonçaient le caractère réactionnaire ou restaurateur de la République de Beaune et prônait une alternance à gauche. Günter Grass, par exemple, grand écrivain qui domine la période, se fait conseiller du chancelier Willy Brandt, enfin de celui qui va devenir ensuite le chancelier Willy Brandt, tandis que Martin Walser devient quant à lui sympathisant du parti communiste ouest-allemand. En imposant progressivement à la société ouest-allemande l'exigence d'un débat critique, les intellectuels participent à la seconde fondation, ce qu'on appelle la seconde fondation de la République fédérale dans les années 60. Il y a une forme d'institutionnalisation du rôle des intellectuels, telle que l'a théorisé Jürgen Habermas, qui lui-même est un intellectuel très important de cette époque, représentant hétérodoxe, on pourrait dire, de l'école de Francfort, et qui va participer très activement au débat public, j'y reviendrai. Après avoir dénoncé la guerre du Vietnam et l'invasion de la Tchécoslovaquie en 68, Heinrich Böll, BO2L, qui est prix Nobel de littérature en 1972, offre refuge aux dissidents soviétiques russes Alexandre Solzhenitsyn lors de son expulsion d'URSS en 1974 à la suite de l'apparition de l'archipel du Goulag. J'y reviendrai, qui est très important notamment dans le contexte français. Mais Böll est lui-même accusé par la presse conservatrice de contribuer par ses écrits à attiser le terrorisme d'extrême gauche. Dans ces années 70, certains groupuscules radicaux passent en effet à la lutte armée, je pense notamment à la fraction Armée Rouge, fraction, donc mène des attentats contre des cibles, disons, identifiées comme proches du capitalisme ou du militarisme. Cette critique de la compromission de certains intellectuels avec le terrorisme et de leur responsabilité dans la crise de légitimité de la République de Beaune contribue en partie à leur discrédit à la fin des années 70. Ce qui n'empêche pas par ailleurs la mobilisation de Grasse ou de Böll dans les mouvements pacifistes au cours des années 80. Donc, les intellectuels ouest-allemands tiennent une place essentielle dans les débats culturels, sociaux, politiques dans les années 80, à l'image du rôle déterminant joué par Jürgen Habermas, donc Habermas, dans ce qu'on appelle la querelle des historiens, qui est lancée en juillet 1986 par la publication d'un article de Habermas dans l'hebdomadaire Die Zeit, où il dénonce les tendances apologétiques dans l'historiographie contemporaine allemande. Et il vise notamment trois historiens allemands qu'il accuse de relativiser la place du régime nazi et de la Shoah dans l'histoire allemande. À partir de là, cette controverse va mobiliser en Allemagne les principales figures de la recherche sur le nazisme, déborder ensuite à l'étranger. Donc c'est un débat notamment qui va être prolongé en France, notamment entre François Furet d'un côté et Ernest Nolte, qui est la principale figure de ce qu'on appelle parfois le révisionnisme. Nolte, qui, pour le dire vite, considère que le nazisme a été une forme de réaction, une forme de réponse allemande devant la menace bolchevique. Donc il y a une forme de relativisation finalement du nazisme par Nolte. Nolte s'écrit Nolte. Les débats intellectuels, par ailleurs, ne sont pas forcément, pas seulement portés par des figures de gauche, mais également par des penseurs de droite, par exemple Ralph Dahrendorf, qui est un sociologue germano-britannique, commissaire européen, directeur de la London School of Economics, et qui développe une théorie du conflit social qui participe au renouveau des influences libérales en Allemagne. Dahrendorf, ça s'écrit D. Ahrendorf. Alors, deuxième sous-partie, le cas français. Il existe, à propos de l'évolution des idées politiques et sociales en France dans les années, décennies qui ont suivi les événements de 68, un récit dominant. Selon lequel, finalement, l'histoire de la pensée française, depuis 3 ou 4 décennies, on considère qu'elle est interprétée comme ayant connu une révolution conservatrice ou un mouvement de restauration au sens de la restauration, de l'époque de la restauration, donc de contre-révolution intellectuelle. Alors, bon, très nombreux en fait sont les interprètes de cette époque, des années 70-80, qui s'accordent à voir dans cette période un moment de déplacement du centre de gravité politique de la vie intellectuelle nationale, de la gauche vers la droite, et alors accompagnerait ce déplacement du centre de gravité politique, divers mouvements, enfin le divers phénomènes, le retour du sujet dans les le retour de l'individu, du sujet, de l'acteur dans les travaux des sciences sociales, un déclin de l'anti-humanisme, un retour en force des idées démocratiques, libérales, de la morale aussi, et la victoire de ce qu'on appelle donc l'idéologie anti-totalitaire ou de l'anti-totalitarisme. Post-marxiste, post-structuraliste, post-moderne ou moderniste, cette période voit fleurir ce préfixe post pour définir une partie de ces phénomènes, mais aussi c'est aussi le symptôme d'une période qui s'exprime et se réfléchit comme un moment de rupture et de désillusion vis-à-vis des promesses ou des espoirs que les années 50 et 60 surtout avaient répandu. Alors certains ont proposé des explications à ce tournant intellectuel et politique, en retrouvant le plus souvent des régularités que l'histoire et la sociologie des mondes intellectuels ont éprouvées de longue date pour d'autres périodes historiques, la révolution conservatrice ou cette restauration de la pensée française dans les années 70-80 a souvent été rapportée à la reconnaissance sociale croissante dans l'université, dans la recherche, dans la presse, dans la culture, dans le monde politique, d'individus qui étaient des nouveaux venus ou des marginaux dans le champ intellectuel des années 60. En s'installant socialement et professionnellement, ces outsiders auraient abandonner peu à peu les idéologies de transformation sociale qu'ils avaient défendues pendant leur jeunesse et renoncer peu à peu à leur engagement aux côtés des classes populaires et des peuples opprimés. Au fil des années, ces outsiders devenus insiders, ces marginaux devenus centraux, auraient été rejoints dans leur renoncement, certains disent leur reniement, par une nouvelle génération d'intellectuels nés après 45, génération donc plus jeune, construite en opposition avec les maîtres penseurs des années 60-68, et dont le conservatisme ou la dépolitisation, il y a aussi cette interprétation, aurait été renforcée, de même que pour les générations suivantes, par une possibilité moins grande d'accès à une forme de reconnaissance sociale. La fermeture notamment des recrutements à l'université aurait poussé un certain nombre d'intellectuels vers des positions plus conservatrices. Alors si cette thèse d'une restauration intellectuelle ou d'une contre-révolution intellectuelle de la pensée française après 68 domine l'historiographie contemporaine, elle laisse quand même en suspens plusieurs questions épineuses. D'abord parce qu'elle tente à unifier derrière une forme de polarité idéologique l'avant comme l'après 68, là où le champ intellectuel est à toutes les époques un espace social divisé en plusieurs camps irréductibles. Donc il y a une forme de réduction à deux camps qui seraient opposés l'un à l'autre, alors qu'en réalité, le champ intellectuel est fracturé, divisé en multiples fractures. La thèse d'un esprit du temps qui serait plus conservateur ou voire réactionnaire à partir des années 70-80 prend aussi le risque de minimiser les formes de. Enfin, prend le risque d'une forme de temporalité linéaire là où il y a en fait plutôt des formes de résurgence, de retour en arrière, ce qu'on appelle les revivals, des réhabilitations qui s'effectuent. Donc là aussi, une vision un peu trop linéaire probablement du mouvement qui semble faire passer en 10 années de temps d'un extrême à l'autre en quelque sorte, alors que encore une fois, il y a des formes de permanence, de continuité, et puis des formes également de retour en arrière. Une lecture surpolitisée des productions intellectuelles de ces années 70-80 finit aussi par conférer une signification politique à des contenus intellectuels dont le sens idéologique ne va pas de soi, en réalité, puisque dépendant avant tout des contextes, des controverses dans lesquelles ils sont pris, de la force ou la légitimité relative des individus ou des groupes qui les soutiennent. Donc là aussi, faire attention à ne pas être focalisé sur quelques figures qui seraient particulièrement impliquées ou particulièrement engagées, là où en réalité le champ intellectuel se caractérise plutôt par des degrés inégaux d'intensité dans l'engagement. La représentation dominante d'une pensée française de l'après-68, marquée par un désengagement vis-à-vis de certaines références intellectuelles de la gauche radicale des années 60, pose un dernier problème, c'est-à-dire qu'elle fait en fait elle-même déjà partie des discours qui ont accompagné les événements de mai 68. Elle participe finalement, dès cette époque, au conflit d'interprétation quant à la signification historique de ces événements. Donc, c'est d'autant plus difficile pour l'historien d'essayer de comprendre, de penser une interprétation libérée des luttes mémorielles autour de 68 et de ses suites. Comment finalement penser ces événements et leur suite, alors même que finalement l'interprétation fait partie même des événements. La majeure partie des recherches qui sont tournées vers la vie des idées après 68 ont porté, je le disais jusqu'à présent, sur un nombre assez restreint de grandes figures. Elle s'est également concentrée sur les évolutions de groupes ou de familles politiques très ancrées à gauche, voire à l'extrême gauche, intellectuels communistes, trotskistes, maoïstes. Et plus rares, finalement, ont été les enquêtes historiques qui ont porté sur le changement intellectuel au sein de certaines disciplines ou dans des institutions d'enseignement supérieur de recherche. Il y a des travaux récents, mais finalement pas si nombreux, sur l'université de Vincennes, sur celle de Nanterre, sur l'école des hautes études en sciences sociales, qui permettent d'apporter un éclairage diversifié sur les mutations de la pensée française depuis 68. Et par ailleurs, l'impact des médias sur ce changement d'ère, alors qu'on peut orthographier AIR ou E, accent grave RE, changement d'ère intellectuel, fait l'objet de l'attention croissante des historiens et des historiennes qui ont travaillé sur des revues intellectuelles généralistes comme Esprit, Les Temps modernes, Commentaires ou Le Débat, ou sur des journaux comme Libération, comme Nouvel Observateur ou Actuel, et aussi sur les médias audiovisuels. Alors c'est le cas par exemple, je trouve intéressant, ça va être un deuxième point dans cette partie consacrée à la France, et on est toujours dans la première partie sur la sphère intellectuelle. C'est le cas donc de ma collègue Françoise Taliano-Dégaré, Taliano, plus loin DES, plus loin GARETS, qui vient de publier l'année dernière un manuel, alors plus qu'un manuel, c'est un gros manuel, on va dire, et un beau manuel qui s'appelle Un siècle d'histoire culturelle en France, donc paru chez Armand Collin en 2019. Et elle consacre notamment un court développement à ce qu'elle appelle l'effet Goulag et la nouvelle philosophie, où elle examine cette nouvelle conjoncture intellectuelle française des années 70-80, marquée par les révélations de la réalité du socialisme soviétique ou du communisme stalinien, comme on veut. En 73, l'écrivain russe Alexandre Soljenitsyne publie donc le livre le plus connu finalement qu'il a publié, qui s'appelle L'archipel du Goulag. Alors, Solzhenitsyn, ça s'écrit, hein, pour ceux qui auraient des soucis d'orthographe, Solzhenitsyn, Solzhenitsyn. Dans ce livre, L'archipel du Goulag, donc le dissident décrit l'univers concentrationnaire qu'il a lui-même subi. Hein, il a lui-même été prisonnier, et il a fait partie de, enfin, il a été envoyé en Sibérie dans cet archipel du Goulag. L'ouvrage va être rapidement traduit dans beaucoup de langues étrangères, notamment il y a une traduction française dès 1974. Et Solzhenitsyn est l'invité de l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, le 11 avril 1975, avec un succès de librairie énorme, puisque 700 000 exemplaires vont être vendus de ce livre de Solzhenitsyn. Le choc produit par ce livre ne tient pas seulement à l'impact d'Apostrophe, même s'il est important, et j'y reviendrai encore une fois tout à l'heure, ni même à la seule divulgation d'une réalité terrifiante que d'autres témoignages avaient dénoncée depuis les années 30. François Stagliano souligne combien l'archipel du Goulag a déclenché en France et dans les milieux intellectuels de gauche en particulier un retour du refoulé, comme elle l'appelle, après les crises hongroises de 1956 et tchécoslovaques de 1968. Et de fait, ce sont bien souvent d'anciens intellectuels marqués par le enfin, des intellectuels marqués par le communisme dans les années 60, qui ont pu d'ailleurs faire partie du Parti communiste ou militer dans des groupements marqués par l'idéologie communiste, qui sont les premiers à réagir et le plus fortement. Claude Lefort, par exemple, ancien animateur de la revue Socialisme et Barbarie, salue l'ouvrage de Solzhenitsyn dans la revue Texture et dénonce la grande machine d'oppression, les mécanismes d'extermination dissimulés sous les panneaux de la Révolution, de la planification bienfaisante et de l'homme nouveau. Autre exemple, le philosophe André Glucksmann, ancien militant maoïste, ancien membre du Parti communiste aussi, qui fait paraître en 1975 La cuisinière et le mangeur d'hommes, essai sur l'État, le marxisme, les camps de concentration, dans lequel il dénonce toutes les formes d'oppression étatique et en particulier celle de l'État soviétique. Glucksmann, ça s'écrit Glucksmann. Comme le souligne François Stagliano, le contexte, hein, des années 70 est effectivement très difficile pour l'idéologie communiste et pour les expériences qui se réclament de la pensée marxiste dans le monde, les expériences politiques qui se réclament de la pensée marxiste. En Asie du Sud-Est, c'est la fin donc de la République du Sud, la prise de Saïgon en 1975 par les Vietnamiens du Nord et l'exode massif de ceux qui fuient le régime sur les embarcations de fortune, les boat people. À peu près à la même époque, ou dans la moitié des années 70, c'est au Cambodge la prise du pouvoir par les Khmers rouges qui vont mettre en place une machine totalitaire qui va causer des millions de morts. En 76, on a la mort de Mao, qui régnait d'une main de fer sur la Chine communiste depuis 1949. Cette disparition va entraîner la mise en accusation de ses plus proches conseillers, notamment de sa veuve, qui vont être traînés en justice, avec la mise en accusation de la bande des quatre, qui va être une façon aussi pour le pouvoir communiste chinois de se dédouaner et de permettre la perpétuation finalement du régime en accusant quelques comparses de tous les crimes de la période précédente. En 1974 paraissent les révélations d'un franco-chinois qui a été emprisonné dans le système concentrationnaire chinois, ce qu'on appelle le Laogai, le goulag chinois si vous voulez. Ces révélations paraissent sous le titre Prisonnier de Mao et vont être un petit peu, avec moins de retentissement, mais l'équivalent, si vous voulez, de l'archipel du Goulag pour le système soviétique. La critique du totalitarisme, en particulier d'inspiration marxiste, entraîne un discrédit du marxisme et par contre-coup, une réhabilitation du libéralisme politique et économique. Jean-François Revel publie en 1975 La tentation du totalitarisme. Là, on est donc 25 ans après l'ouvrage de Hannah Arendt. La revue Esprit organise un séminaire de réflexion sur le sujet, publie un numéro spécial Révolution et totalitarisme en 1976, auquel participent notamment Claude Lefort ou l'historien François Furet. François Furet, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il avait, qu'il allait croiser le fer dans les années 80 avec Ernest Nolte. François Furet, qui était lui-même communiste hein, au début des années 50, historien de la Révolution française, et qui remet en cause la lecture marxiste qui a été faite de cet épisode historique, notamment par l'historien Robert Sauboul et l'école historique qu'il a animée. Il se rallie au libéralisme aronien. Il va publier quelques années plus tard, en 1995, Le passé d'une illusion. C'est une allusion au livre de Freud qui date de 1927, hein, L'avenir d'une illusion, qui portait sur la religion. Et Le passé d'une illusion de François Furet se présente comme une réflexion bilan sur le totalitarisme au XXe siècle. L'hebdomadaire Les Nouvelles Littéraires, dirigé par Philippe Tesson, le père de l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, lance en 1976, au printemps 1976, l'appellation de nouveau philosophe. Le terme désignant à la fois un courant philosophique, un moment éditorial et médiatique. Ces nouveaux philosophes viennent pour la plupart de la gauche radicale et ils partagent désormais, dans une forme de conversion et de zèle de néo-convertis, une même aversion pour le totalitarisme, concept sur lequel ils rassemblent, à l'instar de Hannah Arendt, le nazisme et le stalinisme. En mai 1977, Bernard-Henri Lévy publie La barbarie à visage humain. Le totalitarisme est selon lui porté par l'optimisme, de même que l'idée de révolution. Mieux vaut donc une philosophie du pessimisme qui s'accompagnerait d'une nécessaire vigilance. Je cite ici les lignes que lui consacre Françoise Taliano. Il attaque aussi l'idéologie du désir, chère à quelques penseurs à succès en 68 et un peu après de Marcuse à Deleuze ou Guattari. Je cite celui qu'on va rapidement nommer BHL, Bernard-Henri Lévy, donc citation elle-même citée par Françoise Taliano dans son livre sur l'histoire culturelle en France, enfin l'histoire culturelle de la France, de l'idéologie du désir à l'apologie du pourri sur fumier de décadence, de l'économie libidinale à l'innocent accueil fait à la violence brute et décodée, de la schizoanalyse même à la volonté de mort sur fond de drogue forte et de plaisirs transversaux, la conséquence n'est pas seulement bonne, elle est surtout nécessaire. Écoutez les pauvres épaves qui s'en vont sur les routes, s'exténuer en un dernier shoot, vous saurez à peu près tout des effets des principes de l'idéologie du désir. Bon, j'ai taillé un peu dans la citation, mais enfin, elle reste claire. Vous voyez, une condamnation, je dirais, sans nuance comme dans une sorte de grand fourre-tout, une grande équivalence de tout ce qui peut, de près ou de loin, être apparenté à une forme d'excès, de dévoiement du désir, maître mot des années 68, et qui va ensuite donc être considéré comme quelque chose de tout à fait condamnable par l'époque nouvelle. C'est à peu près au même moment que Glucksmann publie de son côté Les Maîtres penseurs, qui est un ouvrage dans lequel il met en jeu la responsabilité des philosophes dans l'histoire, et là encore, où il brûle finalement ce qu'il a adoré dans les années précédentes. À droite, cette critique du totalitarisme entraîne la renaissance d'un courant intellectuel libéral, autour de Raymond Aron notamment, qui crée le Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés en janvier 1978, Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés, acronyme CIEL. Il rassemble des libéraux, mais aussi une gauche non marxiste. Des gens comme donc Raymond Aron, Julia Kristeva, Edgar Morin, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-François Revel, Louis Powell, Sur-Marie Domnach, entre autres. C'est ce même courant libéral qui lance la revue Commentaires en 1978 également. Et ce qui est intéressant, c'est des rapprochements s'effectuent entre des intellectuels que tout avait opposés dans les décennies précédentes. Et je pense notamment au rapprochement entre Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, anciens condisciples à l'École normale supérieure, mais que tout séparait depuis 30 ans, et qui vont participer ensemble à une campagne d'opinion pour défendre les boat people, donc ces gens qui fuient le Vietnam pour échapper au communisme. Un comité est formé qui s'appelle Un bateau pour le Vietnam, fondé en 1979, où l'on retrouve André Glucksmann, Alain Gesmard, l'ancien leader 68ard, Bernard Kouchner également, qui va fonder bientôt avec d'autres médecins, une association qui s'appelle Médecins du Monde en 1980. Et donc ce sont tous ces gens-là qui vont se réunir dans ce comité Bateau pour le Vietnam pour essayer de venir en aide à ces réfugiés qui essayent de fuir le Vietnam. Donc c'est assez intéressant aussi de voir ces rapprochements inédits et finalement ce discrédit dans lequel, encore une fois, se trouvent plongées des références qui dominaient encore la période précédente. Alors il me semble intéressant de revenir sur un certain nombre de choses. Enfin, d'aborder ces questions sous un angle un petit peu différent, qui est l'angle, je dirais, médiatique. Comment, finalement, quel est le rapport entre intellectuels et médias dans ces années donc 60, 70, 80? Ça va être l'objet d'un troisième point dans cette deuxième sous-partie, donc la deuxième sous-partie consacrée à la sphère intellectuelle française. Je vais consacrer un troisième point qui va se focaliser, disons, qui va étudier plus particulièrement la question des rapports entre intellectuels et médias, mais ça sera donc l'objet d'un deuxième enregistrement.